Bienvenue dans le débat. Imaginez un peu la situation. Un pays avec une inflation qui frôle les 20%, situé à quoi ? À peine 200 km des troupes russes.
Ouais, et qui sort de 4 années de crise ininterrompue, en fait.
C'est ça. Des crises qui ont exigé des investissements massifs dans sa défense. Logiquement, le 12 mai 2024, les électeurs auraient dû sanctionner le pouvoir en place lors de la présidentielle lituanienne, mais ils ont fait exactement l'inverse. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, ces résultats officiels prouvent-ils une résilience pro-occidentale absolue, ou bien est-ce que ça masque des fractures internes plus périlleuses ? Pour ma part, je suis convaincue qu'on assiste à un triomphe éclatant de la stabilité atlantiste.
Alors que de mon côté, je lis ces résultats un peu différemment. Je suis persuadé que ce scrutin révèle une vulnérabilité sociale et institutionnelle vraiment alarmante, qu'il serait très dangereux d'ignorer.
Bah, regardons d'abord la mécanique du vote, en fait. Près de 65% des suffrages se sont portés sur l'exécutif sortant. On a le président Jitanas Nauseda à plus de 44% et la première ministre Ingrida Simonite autour de 20%.
C'est vrai, oui.
Et ce n'est pas qu'une simple statistique, c'est un véritable exploit politique. Ces dirigeants ont géré la pandémie, une crise migratoire hybride orchestrée par Minsk et une inflation record. Simonite a même assumé une rigueur technocratique, parfois perçue comme froide.
Tout à fait.
Si la nation était si fragile, ils auraient été balayés, non ? Au lieu de ça, la continuité géopolitique et l'ancrage à l'OTAN ont été massivement validés.
Oui, enfin, sauf que vous passez un peu vite sur un signal d'alarme majeur qui a retenti le même jour, hein, le référendum sur la double nationalité.
Ah oui, le référendum.
Parce que plus d'un million de voix l'ont approuvé. Ça représente environ 74% des votants. Sauf que ça reste un échec monumental.
À cause de la règle constitutionnelle, oui.
Exactement. Elle exige la majorité absolue de tous les inscrits et pas seulement des votants. Et pourquoi c'est lié à la résilience nationale ? Parce qu'en bloquant ça, le pays s'enferme dans une impasse démographique. Il rejette légalement une diaspora pourtant très mobilisée, basée à Londres ou Chicago. En fait, on se coupe de ses propres forces vives occidentales.
Je comprends, mais je ne crois pas qu'on puisse mettre sur le même plan une rigidité constitutionnelle et le maintien d'un consensus de sécurité vitale. Je veux dire, avec près de 60% de participation, l'élimination précoce des candidats au discours ambigu, c'est quand même frappante.
Frappante à l'échelle nationale, peut-être.
Mais la propagande et la désinformation russes ont tout simplement échoué à fracturer l'électorat, quoi.
À l'échelle nationale, oui. Mais regardez la carte de plus près, surtout l'est du pays. Le score d'Edouardas Vaitkus, c'est le vrai point aveugle de votre analyse.
Il fait 7,4% en global, ça reste marginal.
Au global, oui. Mais dans des municipalités comme Visaginas et Salsininkai, ce candidat, qui dénonce carrément l'aide à Kiev, a remporté la majorité absolue dès le premier tour.
Waouh ! Dès le premier tour.
Oui, et ce n'est pas un simple vote de protestation. C'est la preuve d'un échec systémique de l'intégration linguistique. Ces populations russophones ou polonophones vivent dans une sphère médiatique parallèle, où la désinformation numérique du Kremlin pénètre sans aucun filtre.
D'accord. Ces enclaves existent, c'est indéniable. Mais il faut quand même mesurer l'ampleur du rejet populiste sur tout le reste du territoire. Par exemple, Ignace Vegele, malgré sa violente rhétorique anti-système, il plafonne à 12,5%. Romy Julius, The Maïté Etis, encore plus radical, s'arrête à 9,3%. En fait, le succès de Nauseda repose sur sa capacité à endosser le costume de chef des armées. Ça a complètement désamorcé les sirènes populistes. Les électeurs ont choisi le bouclier plutôt que l'aventure.
Le bouclier tient, certes, mais la société qui le porte montre des signes d'épuisement. Le fossé des richesses s'élargit drastiquement. Pendant que la capitale, Vilnius, profite d'un boom technologique et des contrats de défense, les zones périphériques, elles, subissent le coût de la vie de plein fouet.
Ce sentiment de déclassement.
Voilà. C'est cette anxiété économique qui rend certaines marges si vulnérables aux récits alternatifs. Le contrat social lituanien est sous très haute tension et ces enclaves dont on parlait sont une faille béante dans le dispositif de sécurité.
C'est un point valide. L'alignement stratégique reste néanmoins la leçon principale. Les chancelleries alliées peuvent être rassurées. La chaîne de commandement ne souffre d'aucune ambiguïté. Même si, bien sûr, nous garderons notre désaccord sur la gravité de ces failles locales.
Tout à fait. Et la vraie question finale, c'est de savoir si on peut durablement garantir sa sécurité en se concentrant uniquement sur la fortification de ses frontières orientales, quand la cohésion interne se fissure.
Une dynamique très complexe, en effet, qui ne se résume définitivement pas à un simple pourcentage. On laissera ceux qui nous écoutent peser ces arguments et tirer leurs propres conclusions. À très bientôt pour de nouvelles perspectives.